Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette conférence qui est donc organisée par la librairie Jean Calvin dans le cadre non pas du cycle de conférences, mais c'est une conférence hors cycle. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau Olivier Rey, que nous avions reçu l'année dernière pour parler d'un autre de ses ouvrages. Et il vient donc ce soir nous parler de son dernier ouvrage publié aux éditions Stock, Une question de taille. Alors Olivier Rey est chercheur au CNRS, il est aussi enseignant chargé de cours à l'université Paris-Sorbonne en philosophie, et donc il s'est spécialisé dans toutes les questions de réflexion sur la pertinence de cette volonté omniprésente aujourd'hui dans notre société, de l'appel à l'autonomie, à la liberté, de la question de la vérité des sciences. Et puis ici, justement, à partir des œuvres de Ivan Illich, mais il va nous en parler tout de suite, de la question de la taille, comment notre société arrive à construire des espaces ou des bâtiments ou des ensembles démesurés qui ne sont plus, au fond, à l'échelle humaine. On sent aujourd'hui, malgré tout, malgré ce mouvement extrêmement pressant dans notre société, en tout cas dans nos sociétés occidentales, mais pas seulement, on sent les frémissements d'un retour de manivelle, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, on sent des frémissements opposés à cette pression des grands ensembles. Je le veux pour preuve le référendum qui vient d'avoir lieu en Catalogne, qui remet en question l'unité d'un des plus anciens États de l'Europe et qui pose un vrai problème à l'État espagnol. On se souvient, je pense, on a tous en mémoire l'exemple de l'Écosse aussi, il y a quelque temps, qui a remis sur le tapis aussi la question de son indépendance. Et donc, on sent bien, Frédéric Ancel ici posait la question, lorsqu'il est venu faire sa conférence sur les printemps arabes, il posait la question d'une déstabilisation des États-nations, comme on a pu les connaître depuis le XIIIe siècle, en tout cas, ces États-nations ont commencé à se constituer au XIIIe siècle en Occident, et ont pris vraiment leur essor au XIXe siècle. On sent une déstabilisation de ces États-nations, et pour Frédéric Ancel, il s'agit même d'un véritable éclatement, et il pense qu'on va revenir donc à des États-régions, voire à des régions tout court. On a aussi, peut-être pour certains d'entre nous, en tête ces exemples de producteurs qui vendent directement dans leurs fermes et qui tentent d'escamoter donc tous les intermédiaires, mais qui tentent aussi de réduire l'espace à franchir entre le consommateur et le lieu d'achat des produits, le lieu d'habitation du consommateur et le lieu d'achat des produits. Toute cette question des transports qui, justement, est traitée ici dans ce livre par Olivier Rey. Donc il y a les frémissements d'une action contre cette démesure de notre société, et c'est surtout cette question de démesure et de construire à l'échelle d'une taille humaine que va nous entretenir ce soir Olivier Rey. Je lui laisse la parole de suite pour nous exposer donc sa problématique, sa thèse, ses idées. Mais ensuite, on aura un temps de débat pendant à peu près 15-20 minutes où vous pourrez réagir évidemment à ce que vous aurez entendu, aux remarques qui auront été faites, aux idées développées. Et puis, vous pourrez aussi évidemment poser vos questions.
Merci beaucoup pour cette introduction. Juste deux tout petits points pour commencer. Le livre auquel il a été fait référence, là vous le voyez ici, il peut concourir quand même pour la couverture la plus moche de l'année. Bon, voilà, en fait c'est une collection, déjà la maquette est très laide. Et en plus, ils ont pris le parti pour chaque volume de la collection de changer de couleur. Alors il se trouve que les premiers, ils ont pris toutes les bonnes couleurs. Et donc, vous voyez le genre de couleur qui reste maintenant. c'est comme ça. Je n'ose penser à ce que ça va être pour les prochains. Mais bon. Bon, j'espère que le contenu est un peu moins marron que la couverture. Et puis, la deuxième chose, c'est juste une toute petite rectification qui a déjà été faite. Mais enfin, dans le programme, il est marqué que je suis professeur de philosophie à Polytechnique. En fait, non. J'ai été professeur chargé de cours en mathématiques à l'école polytechnique. Il se trouve qu'à l'intérieur du CNRS, j'ai obtenu, après beaucoup de difficultés, un changement de section. Je suis passé de la section 1 mathématiques à la section 35 philosophie. Donc je suis passé au 35e dessous, hein, si on peut dire. Voilà, et donc c'est ce qui me vaut d'être ici parmi vous, parce que je ne pense pas que vous m'auriez invité pour parler d'équations aux dérivées partielles non linéaires que je pratiquais auparavant. Mais malgré tout, vous n'y allez pas échapper, je vais quand même vous en dire un petit mot pour commencer, parce que ça a un lien avec les questions auxquelles j'ai essayé de m'intéresser dans le livre dont il vient d'être question. Bon, les mathématiques, c'est un immense continent qui est divisé en de nombreux domaines, eux-mêmes divisés en de nombreux sous-domaines. Et mon travail, lorsque j'étais mathématicien, concernait ce qu'on appelle les équations aux dérivées partielles, partial differential equations en anglais, ou PDEs, comme on dit dans le métier. Alors, l'appellation peut paraître extrêmement barbare à beaucoup d'entre vous. Il faut quand même savoir que sans ces fameuses équations dites aux dérivées partielles, c'est à peu près toute la physique moderne qui disparaît, et donc avec elle, l'immense majorité des dispositifs techniques qui nous entourent. À peu près toutes les machines autour de nous, si on supprime les équations aux dérivées partielles, elles disparaissent aussi. C'est par les équations aux dérivées partielles que ces équations aux dérivées partielles qui sont au fondement des théories physiques qui ont permis la construction de ces machines. Et alors, j'ai plus spécifiquement travaillé sur des équations aux dérivées partielles dites non linéaires, et c'est sur ce terme non linéaire que je voudrais insister un instant. Il ne faut pas du tout s'en effrayer, c'est en fait extrêmement simple. On dit qu'une grandeur varie linéairement par rapport à une autre grandeur. Lorsque vous prenez la première grandeur, vous lui faites subir une certaine variation, la deuxième grandeur qui lui est liée, elle va subir elle-même une variation reliée à la première qui va être proportionnelle à la variation de la première. Voilà. Donc on dit qu'une variable varie linéairement par rapport à une autre lorsque les variations de chacune des variables, en fait, sont proportionnelles l'une à l'autre. Alors pourquoi on dit que c'est linéaire ? Parce que si vous faites un dessin, vous savez, le truc classique, on met l'axe des x à l'horizontale, l'axe des y à la verticale, et puis on va tracer la variation de y par rapport à x. Et bien, si y varie proportionnellement à x, et bien, la courbe de variation, ça va être une droite. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est linéaire. Et puis en revanche, eh bien, dès que les variations d'une variable par rapport à l'autre, ce n'est plus de la proportionnalité, eh bien, on va dire qu'on va rentrer dans le domaine non linéaire. Alors, ce qui est très important dans le domaine linéaire, c'est que quand on considère un ensemble de variables qui varient linéairement les unes par rapport aux autres, c'est qu'on ne change rien lorsque l'on change d'échelle. Ou plus exactement, on ne fait que changer l'échelle, mais sinon le problème reste exactement le même. C'est-à-dire que quand vous résolvez le problème à une certaine échelle, si vous changez d'échelle, eh bien, la solution va être exactement la même, simplement en plus grand ou en plus petit. En revanche, dès qu'on est dans le non-linéaire, les choses deviennent plus compliquées. Et là, en fait, il va y avoir des phénomènes très importants qui vont être induits par le changement d'échelle. Alors, ça ne va pas se produire en permanence. Il va y avoir des moments où, lorsque on fait varier une des variables, eh bien, les autres vont varier plus ou moins mollement par rapport à la première. Et puis, tout d'un coup, il va y avoir des seuils auxquels, tout d'un coup, il va se passer des choses, des changements radicaux. Alors, pour donner un exemple extrêmement simple en physique, si vous prenez une casserole d'eau que vous chauffez, bon, bah pendant un certain temps, il ne se passe pas grand-chose. Simplement, au fur et à mesure que vous chauffez, la température de l'eau dans la casserole va augmenter. Bon, puis on pourrait se dire, eh ben, ça va durer comme ça indéfiniment. Plus je vais chauffer, plus la température va augmenter. Bon, bah, quand on est à pression atmosphérique normale, il se trouve que quand on arrive à 100 degrés, tout d'un coup, c'est plus du tout. Tout d'un coup, il y a un seuil qui est franchi. Et si vous continuez à chauffer, ben vous ne faites plus augmenter la température de l'eau, mais l'eau se transforme en vapeur. Bon, ben ça, c'est un effet typiquement non linéaire, justement. Si vous prenez les équations de la physique sous-jacente, c'est parce que ce sont des équations non linéaires que vous pouvez avoir ce genre de surprise. C'était tout à fait inimaginable. On avait de l'eau, on la chauffait, ça ne faisait que augmenter on ne faisait que faire augmenter la température, et puis tout d'un coup, on a ce qu'on pourrait appeler une catastrophe, c'est que brusquement, on a un phénomène qualitativement tout à fait différent. Bon, ça, c'est typiquement un effet non linéaire. À titre personnel, j'ai travaillé sur des modèles qu'un des grands mathématiciens du XXe siècle, Alan Turing, a élaboré à la fin de sa vie pour comprendre la morphogenèse du vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Alan Turing, c'était un très grand mathématicien qui a joué un rôle important dans la conception formelle des ordinateurs. Bon, qui a eu pas mal d'ennuis avec la justice anglaise à cause de son homosexualité, et qui a fini par se suicider d'une manière assez particulière, puisqu'il avait fait macérer une pomme dans du cyanure, et il s'est suicidé en mordant dans la pomme imbibée de cyanure. Et il est probable que le logo d'Apple, vous savez, les ordinateurs avec la pomme mordue, en fait, ce soit une référence cryptique à Alan Turing. Alors en fait, Steve Jobs ensuite a démenti la chose parce que ça faisait un peu macabre, mais en réalité, bon, le logo de Apple ne peut pas s'expliquer d'une autre manière que celle-là. Alors si je veux encore poursuivre un tout petit peu l'anecdote, pourquoi Alan Turing avait choisi ce mode de suicide ? Comme je vous l'ai dit, il était homosexuel. Bon, il avait été aussi, à cette époque, il avait été voir le dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige. Et vous savez que Blanche-Neige, il y a une méchante sorcière qui lui donne une pomme empoisonnée à manger. Blanche-Neige mord dans la pomme, et puis elle tombe en catalepsie. Et en fait, heureusement pour elle, elle n'a pas vraiment avalé la pomme, mais le morceau de pomme est resté coincé dans son gosier. Et puis un jour, il y a un prince charmant qui arrive, qui l'embrasse, et à ce moment-là, elle recrache le morceau de pomme, et elle va pouvoir vivre une vie heureuse avec le prince charmant. Et donc, Alan Turing, dans son humour noir très britannique, en fait, a mordu dans la pomme empoisonnée aussi, dans l'attente du prince charmant qui viendrait le réveiller. Voilà, enfin bon, donc à la fin de sa vie... Alan Turing se posait la question dans le vivant, justement au départ, quand on prend des embryons, en fait, ils sont très très peu différenciés, et puis au fur et à mesure de leur croissance, précisément, il va y avoir des tas d'organes différents qui vont apparaître à partir d'un milieu qui, au départ, était homogène. Et en particulier, lui, il avait travaillé sur un animal très simple qui est l'étoile de mer. Et en fait, il se trouve que les étoiles de mer, quand elles sont toutes petites, ce ne sont pas des étoiles de mer, mais ce sont des rondelles de mer, si on peut dire, parce que justement, il n'y a pas de branches, elles sont toutes rondes. Et puis, il se trouve que, quand elles sont toutes rondes, elles grandissent, et puis à un moment donné, au lieu de rester toutes rondes, eh bien, il va y avoir des branches qui vont apparaître, et c'est pour ça, donc, qu'on les appelle des étoiles de mer. Et là, en fait, ce que Turing a fait, c'est qu'il a expliqué ce phénomène-là par... justement des équations mathématiques non linéaires, c'est-à-dire que en fait, la croissance de l'étoile de mer, elle est toujours régie par les mêmes équations, mais il se trouve que lorsque le domaine est petit, la solution des équations, ça vous donne quelque chose qui est rond, et puis quand vous faites grandir le domaine, à un moment donné, c'est typiquement un effet non linéaire, la solution des équations, ça n'est plus quelque chose qui vous donne quelque chose de circulaire, mais ça va être une solution qui va vous donner justement des branches qui apparaissent. Mais ce qui est important, c'est que dans cette histoire-là, ça n'est pas un mécanisme, si vous voulez, qui se met en branle à une certaine taille, c'est uniquement la variation de la taille qui entraîne une variation de forme. C'est purement un effet de taille. Un exemple auquel on peut penser très simple aussi. Alors, je prends un autre dessin animé de Walt Disney qui est les 101 Dalmatiens. Vous savez, Cruella, elle veut se faire un manteau en peau de Dalmatien. Alors évidemment, il lui faut de la matière première, donc il lui faut des dalmatiens, et puis elle est très contente parce qu'elle a entendu que chez des gens qu'elle connaît, il y a eu une portée très importante de petits dalmatiens qui vont lui permettre d'avoir les peaux dont elle a besoin pour son manteau. Et puis quand elle voit les petits dalmatiens, elle est catastrophée parce qu'ils sont tout blancs. Or, elle, elle veut un manteau blanc avec des points noirs. Bon, et en fait, il se trouve qu'un petit dalmatien, quand ça naît, c'est tout blanc, et puis c'est uniquement en grandissant que des taches noires apparaissent. Bon, bah là encore, en fait, ce n'est pas qu'il y a un mécanisme, si vous voulez, particulier qui fait que ah, le dalmatien est devenu suffisamment grand, tout d'un coup, on va faire des points noirs. Non, c'est le fait que le mécanisme est latent lorsque le dalmatien est petit et produit des points noirs quand il devient grand, mais simplement, c'est un pur effet de taille. C'est le même mécanisme qui fait que le dalmatien est tout blanc quand il est petit et avec des points noirs quand il est grand. C'est parce que la solution mathématique des équations qui régissent la chimie dans le pelage du dalmatien, en fait, c'est une solution uniforme quand le dalmatien est petit et c'est une solution tachetée quand il est grand. Donc l'idée essentielle à retenir de la non-linéarité, c'est qu'elle implique que le monde n'est pas invariant par changement d'échelle, et en particulier, il existe d'innombrables seuils où un pur changement quantitatif entraîne des changements qualitatifs. Et Galilée, le grand Galilée, s'en était déjà aperçu, il s'en explique de manière extrêmement convaincante dans le dernier livre qu'il a publié en 1638, quelques années avant sa mort. Vous savez que Galilée a eu des ennuis avec l'Inquisition à propos du système de Copernic. En fait, l'ironie de l'histoire dans son grand procès en 1633, c'est que pour prouver que le système de Copernic n'était pas une simple hypothèse, l'Église admettait qu'on parle du système de Copernic uniquement à titre d'hypothèse mathématique pour faire des calculs, mais refusait qu'on présente ça comme étant la vérité. Or, Galilée, lui, voulait prouver que le système de Copernic n'était pas simplement une représentation de mathématicien, mais que ça correspondait véritablement à ce qu'étaient les choses. Bon. Et alors, donc, il cherchait des arguments pour étayer son point de vue, et il a cru avoir trouvé un argument massu dans le phénomène des marées, en disant que si il y a des marées océaniques sur la Terre, c'est le résultat en fait de la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Et là, il y a une très grande ironie de l'histoire parce que la théorie des marées de Galilée est complètement fausse. Et donc, en fait, il soutenait un point de vue qui était juste, mais avec une théorie qui était erronée. Hein, puisque en fait, pour avoir une bonne théorie des marées, il faut tenir compte des forces de gravitation qui étaient inconnues à l'époque de Galilée. La première théorie des marées correcte, ça a été le fait de Newton, mais c'est simplement à la fin du XVIIe siècle, parce que Newton, lui, justement, c'est celui qui avait compris l'intervention des forces gravitationnelles. Bon. Toujours est-il que Galilée, après son procès de 1633, il avait compris que le système de Copernic, il valait mieux laisser ça de côté parce que ça pouvait vraiment lui créer de graves ennuis. Donc il a essayé de s'occuper de problèmes moins chauds, si on peut dire, et il s'est occupé d'une nouvelle science à l'époque qui était la résistance des matériaux. Et la résistance des matériaux, c'est une science qui est profondément non linéaire. Par exemple, si vous prenez une poutre et puis que vous mettez de plus en plus de poids sur la poutre, eh bien la poutre va commencer par fléchir, elle fléchit un petit peu, puis si vous mettez encore plus de poids, elle fléchit encore plus, et puis à un moment donné, tout d'un coup, il y a la catastrophe, elle craque. Hein, et donc là, c'est typiquement un effet non linéaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une variation continue des choses en fonction des variables sur lesquelles vous agissez, en l'occurrence là, le poids que vous faites porter à la poutre, eh bien, tout d'un coup il se produit une catastrophe, c'est que la poutre se casse en deux. Alors Galilée développe ça dans son livre et il donne des tas d'exemples extrêmement parlants. Un des plus parlants justement, c'est il prend l'exemple des géants qu'on rencontre dans les contes. Et il montre que on ne doit absolument pas avoir peur des géants dans les contes parce que ces géants ne peuvent pas exister. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas exister? Eh bien, là, c'est simplement par un effet de non-linéarité très simple, c'est que si on imagine qu'un géant, on va prendre un homme normal et on va multiplier toutes ses dimensions par 10. Alors l'exemple que j'aime bien prendre, c'est Florent Manaudou, parce que lui, ses mensurations, c'est très simple, il fait 2 mètres et 100 kilos, donc c'est très simple à multiplier. Donc si vous prenez un Florent Manaudou et vous multipliez toutes ses dimensions par 10, donc vous allez avoir un géant, un Big Manaudou, qui va faire 20 mètres de haut. Hein. Mais en fait, comme vous multipliez toutes ces dimensions par 10, son volume, un volume, c'est une dimension, une longueur que multiplie une longueur que multiplie une troisième longueur. Donc en fait, son volume, lui, il va être multiplié par 1000. Bon, et donc sa masse, qui est proportionnelle à son volume, elle va être multipliée par 1000. Donc votre géant, qui passe de 2 mètres à 20 mètres, il va passer de 100 kg à 100 000 kg, donc à 100 tonnes. Pour donner une idée, c'est à peu près le poids d'une locomotive. Enfin bon, c'est à peu près ça. Bon. Mais alors, vous voyez, donc, voilà, c'est 100 tonnes, c'est quelque chose. Mais si vous prenez maintenant les jambes du géant, prenez les os de ses jambes, prenez le fémur. Bon. Le fémur, sa section, si vous prenez le fémur, si on le coupait là, transversalement, sa section, elle, c'est une surface, donc elle n'est multipliée que par 100. D'accord ? Et donc, en fait, vous avez une masse qui a été multipliée par 1000, qui va s'appuyer sur un fémur dont la section n'a été multipliée que par 100. Ça veut dire que par unité de surface de la section du fémur, vous allez avoir 10 fois plus de poids que sur un homme, l'homme original, qui faisait 2 mètres et 100 kilos. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le géant, déjà, il est très flageolant sur ses jambes, et qu'au premier pas qu'il fait, il se casse la jambe. Hein, parce que la nature, elle fait pas des os, elle calcule la solidité des os, si on peut dire. Enfin bon, si pour autant qu'elle calcule, j'en sais rien. Mais enfin bon, en tout cas, il y a une certaine optimalité dans les dimensions naturelles. Si on a les os d'une certaine taille, c'est que ça servirait à rien d'avoir des os beaucoup trop gros, parce que ça ferait un poids inutile. Donc voilà, on a les fémurs qui sont faits pour nous porter. Maintenant, si on multiplie par 10 les contraintes sur l'os, eh bien, en fait, l'os va se casser. Et donc, en fait, vous voyez que les géants qu'il y a dans les contes, en fait, en réalité, sont physiquement des êtres impossibles. Alors, la seule solution pour que le géant tienne debout, c'est qu'il faudrait que ses os soient beaucoup plus larges. Mais alors, à ce moment-là, il va devenir super trapu. C'est exactement ce qui se passe, si vous voulez, quand vous passez d'une antilope à un hippopotame. Hein ? Non, mais l'antilope, elle peut avoir des pattes toutes grêles parce qu'elle a la taille qu'elle a. Mais si vous voulez faire grossir, si vous voulez une très grosse antilope, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas garder la forme de l'antilope. Parce que la forme de l'antilope, elle n'est viable qu'à la taille de l'antilope. Si vous voulez une énorme antilope, eh ben ça ne va plus ressembler à une antilope, ça va ressembler à un hippopotame. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un éléphant non plus sur des petites pattes toutes légères. Il faut que ça devienne. Les gros animaux, il faut forcément qu'ils soient trapus. C'est pour ça aussi que sur Terre, les animaux ne peuvent pas vraiment devenir énormes, parce qu'au bout d'un moment, ils deviennent de plus en plus trapus, puis au bout d'un moment, ils ne peuvent même plus marcher. Quoi. Donc. C'est pour ça aussi que l'animal le plus gros qu'on connaisse sur Terre actuellement, c'est la baleine. Mais la baleine, elle peut être très grosse parce qu'elle vit dans l'eau et qu'en fait, l'eau porte l'essentiel de sa masse. Vous allez me dire, et les dinosaures ? En fait, il semblerait que les très gros dinosaures, ils vivaient dans des zones très humides, dans des marais, qui faisaient précisément que l'essentiel de leur poids était porté également par l'eau. Et puis en plus, comme vous le savez aussi, pour les dinosaures, ça s'est mal terminé. Alors d'une manière générale, des biologistes du XXe siècle, comme Darcy Thompson et Holden, ont montré que pour de simples raisons de physique, telles que celles que mises au jour par Galilée, la dimension ne peut pas être considérée comme un paramètre secondaire dans la caractérisation d'une forme vivante, que la taille détermine en effet dans une large mesure le type d'organisation possible. Si on réfléchit à l'unité de structure du vivant telle qu'on le connaît sur Terre, c'est ce qu'on appelle une cellule, et la cellule, elle a une taille comprise entre 1 et 100 micromètres, c'est-à-dire ça va du millième au dixième de millimètre, du millième de millimètre au dixième de millimètre. Et pourquoi les cellules, on n'en connaît pas de plus petites et on n'en connaît pas de plus grosses ? Ben, il faut que la cellule soit suffisamment grosse pour pouvoir accueillir en son sein l'ensemble des molécules qui sont nécessaires à son métabolisme. Mais en fait, elle ne peut pas. Pourquoi une cellule ne peut pas devenir trop grosse ? Eh bien, parce que, en fait, vous voyez, une cellule, ce que ça a à nourrir, c'est son intérieur, c'est-à-dire un volume. Et comment la cellule peut-elle se nourrir ? En échangeant avec l'extérieur. Et quelle est sa frontière avec l'extérieur ? Sa frontière extérieure, donc, c'est sa surface. Et vous voyez que si vous prenez une sphère, son volume, il est proportionnel à son rayon au cube. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R3, R au cube. C'est proportionnel, en tout cas, à son rayon au cube. Et sa surface, c'est 4 pi R au carré. C'est proportionnel à son rayon au carré. Donc, si vous prenez la surface divisée par volume, en fait, ça va être quelque chose en 1 sur R, donc l'inverse de sa taille. Et donc, en fait, vous voyez que quand la cellule grossit, en fait, ses possibilités d'échange avec l'extérieur, qui grossissent comme R au carré, elles grandissent moins vite que son volume, qui lui grandit comme R au cube. Et donc, en fait, quand la cellule grossit, ça va être de plus en plus difficile pour elle de nourrir son intérieur. Elle n'a plus assez de surface pour pouvoir nourrir son intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, la seule solution qu'a trouvée la nature, c'est que quand la cellule grossit, au bout d'un moment, elle se coupe en deux. Et à ce moment-là, ben, on retrouve deux petites cellules qui ont rétabli le bon équilibre entre leur surface et leur volume. Et elles peuvent recommencer à croître jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille où c'est plus possible et où elles sont recoupées en deux, enfin, etc. Alors, pour les organismes pluricellulaires que nous sommes, en fait, le même problème se pose. Et plus les animaux grossissent, les plantes, plus ça grossit, plus ça devient difficile, avec la surface disponible, de nourrir l'intérieur. Alors, quelle va être la solution, si on ne peut pas se couper en deux ? Eh bien, ça va être de compliquer notre surface extérieure pour... essayer d'augmenter notre surface de contact avec l'extérieur pour qu'elle soit suffisante pour nourrir l'intérieur. Alors vous allez me dire, un être humain, ça n'a pas beaucoup de surface avec l'extérieur, hein, puisque la peau humaine, en gros, si on étalait ça à plat, ça fait à peu près 2 mètres carrés. Donc voilà, il faut qu'on se débrouille juste avec 2 mètres carrés de contact avec l'extérieur. En fait, pas du tout. Notre surface de contact avec l'extérieur, elle est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre surface de contact avec l'extérieur, ce n'est pas juste notre peau, c'est notre système respiratoire et notre système digestif. Si vous prenez le système digestif, prenez un intestin. Prenez l'intestin, en fait, il fait 8 mètres l'intestin grêle, par exemple, il fait 8 mètres de long. Ça n'arrête pas de zigzaguer à l'intérieur de notre ventre. Pourquoi ça zigzague comme ça ? C'est pas juste pour le plaisir de faire des virages. C'est que, en fait, il faut augmenter au maximum la surface de l'intestin pour que, à travers cette surface, les nutriments puissent, il y ait suffisamment de nutriments qui puissent pénétrer à l'intérieur de notre corps. Et en plus, non seulement notre intestin est très long, mais quand vous regardez au microscope la surface de l'intestin, vous apercevez que ce n'est pas lisse du tout, mais que c'est au contraire plein de ce qu'on appelle de villosité, c'est-à-dire en fait des choses qui ressemblent un peu à une serviette éponge. Pourquoi une serviette éponge, ça essuie beaucoup mieux qu'une serviette pas éponge ? Eh bien en fait, c'est parce que la serviette éponge, elle a une surface énorme qui vient de ce que, en fait, la surface de contact entre la peau et une serviette éponge, ça ne se limite pas du tout à la taille de la serviette, C'est beaucoup plus parce que vous avez toutes les petites boucles dessus qui rajoutent de la, surface. Bon, bah, la surface interne de notre intestin, c'est la même chose. Et donc, en fait, du coup, la nature, vous voyez qu'elle a trouvé des moyens pour nous faire grossir en taille, mais en nous gardant une surface de contact avec l'extérieur suffisamment importante pour qu'on puisse se nourrir. Maintenant, si vous prenez, on se nourrit par la nourriture aussi, mais on se nourrit aussi par l'oxygène de l'air. Et là, si on prend la surface interne des poumons et qu'on l'étalait à plat, on arrive à 100 mètres carrés. Et donc, vous voyez, c'est 50 fois plus que notre surface externe avec la peau. Et en fait, vous voyez que toute cette complication du système respiratoire, du système digestif, en fait, c'est essentiellement dû au fait que lorsque l'on croît en taille, c'est des contraintes de taille, c'est que lorsqu'on croît en taille, pour garder un rapport viable entre la surface d'échange avec l'extérieur et le volume interne à nourrir, eh bien, en fait, il faut compliquer la surface. Et en fait, un des grands défis qu'ont dû relever les systèmes biologiques, c'est précisément, au fur et à mesure qu'ils croissaient en taille, de se sophistiquer suffisamment pour rester viable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi croître en taille si c'est aussi compliqué ? Parce que quand on croît en taille, il y a un énorme avantage, c'est que plus on est gros, moins on a de prédateurs. Hein. Donc évidemment, il y a un bénéfice énorme à être gros, c'est que bon, c'est sûr qu'un éléphant, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vont pouvoir lui poser des problèmes. Mais réciproquement, plus vous êtes gros, plus c'est difficile de conserver suffisamment de surface pour pouvoir vous nourrir. Donc voilà, vous avez un équilibre à trouver entre les deux. Mais ce qui est à retenir dans cette histoire-là, c'est que dans le vivant, chaque forme vivante a la taille, n'est viable qu'à la taille qu'on lui connaît. Vous voyez, une forme vivante, c'est pas, vous n'avez pas d'un côté une forme et puis de l'autre, vous allez pouvoir la réaliser à n'importe quelle taille. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous fixez une taille, en fait, il ne va y avoir qu'un certain nombre de formes très particulières qui vont être possibles. On a d'autant plus de mal peut-être aujourd'hui à mesurer cette chose-là qu'on passe beaucoup de temps devant des ordinateurs et dans des ordinateurs, on a des images et en fait, eh ben, on a un endroit où on peut mettre ça à n'importe quelle échelle. Et donc, on a l'impression que voilà, on a une image et puis ensuite, on peut réaliser cette image à n'importe quelle échelle. En fait, dans le monde, ça ne se passe pas comme ça. Le monde est non linéaire. C'est-à-dire qu'il change avec l'échelle. Et donc, en fait, suivant les échelles, il y a un certain nombre de formes qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la taille, ça n'est pas un paramètre qui viendrait s'ajouter à une forme, parce que, en fait, la taille détermine les formes qui sont possibles à l'échelle en question. Par exemple, dans les films d'horreur, quand vous voyez des insectes géants, des araignées géantes, par exemple, là, c'est pareil, comme il n'y a pas à avoir peur. En fait, une araignée géante, c'est absolument impossible parce qu'en fait, les insectes n'ont pas de système respiratoire. En fait, pour s'oxygéner, les insectes, ils ont des très fins filaments vides qui leur parcourent le corps. Et donc, en fait, l'oxygène pénètre à l'intérieur de leur corps simplement en circulant à l'intérieur de ces petits filaments. Mais cela étant, c'est les équations de la physique, montrent que la diffusion des gaz à l'intérieur de ces filaments, en fait, se ralentit énormément avec la distance. Ce qui fait qu'en fait, un insecte, on peut calculer ça de manière physique, il ne peut pas avoir un corps qui fait plus de 2 cm d'épaisseur, parce que sinon, l'intérieur n'arrive plus à s'oxygéner. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus gros, eh bien, en fait, à ce moment-là, vous devez avoir un système respiratoire avec des poumons, etc. Et donc, en fait, vous n'êtes plus un insecte, vous êtes autre chose. Et en fait, vous voyez que tous les animaux qui existent, en fait, ne peuvent exister en gros qu'à la taille qu'on leur connaît. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que qui mériterait à lui seul de très très longs développements. Mais s'il ne faut retenir qu'une chose, c'est que pour un organisme, Je le répète, la taille n'est pas un paramètre qui s'ajoute à son organisation, elle est solidaire de cette organisation. Pour un organisme, la taille fait partie de sa définition. Alors, bien entendu, la plus grande prudence est de mise lorsque des organismes, on passe aux sociétés humaines. J'aime beaucoup citer une phrase de Georges, du philosophe Georges Canguilhem, qui dit « Pour l'organisme, l'organisation est son fait, pour la société, c'est son affaire ». Bon, alors cela étant, si la non-linéarité est partout, on peut supposer, avec très peu de risque de se tromper, que les questions de taille doivent être au moins aussi cruciales dans le monde humain que partout ailleurs, même si c'est sous des modalités différentes. Alors pourquoi avons-nous, en particulier aujourd'hui, autant de mal à le reconnaître ? Alors une première raison est que naturellement, nous avons tendance à extrapoler les situations à partir de celles que nous connaissons, sans prendre en compte les changements de régime qui peuvent intervenir lorsque sont atteints certains seuils. Quelqu'un qui n'a jamais vu d'eau bouillir, par exemple, il ne pourra jamais imaginer qu'à force de chauffer de l'eau, tout d'un coup, il va se produire ce phénomène incroyable que de l'eau devient de la vapeur. Il faut avoir été témoin de la chose pour le savoir. Et donc, en fait, lorsqu'on connaît, on est familiarisé à un monde, on a l'impression naturellement que si on fait varier les choses, eh bien, en gros, le monde va rester le même, en plus petit ou en plus grand. Et il faut vraiment expérimenter les catastrophes qui se passent lorsqu'on fait trop grandir la taille ou trop rapetisser pour se convaincre qu'effectivement l'échelle est absolument déterminante. Alors, une autre raison à la sous-estimation, pour ainsi dire, systématique de l'importance des questions de grandeur tient, à mon avis, à la progressive autonomisation au cours de la période moderne de ce qu'on appelait d'abord la philosophie naturelle et qu'on appelle aujourd'hui les sciences par rapport à la philosophie, par rapport à ce qu'on a continué d'appeler la philosophie qui a été versée du côté littéraire. On est un monde qui, depuis, disons, le XVIIIe siècle, a vu une fracture s'instaurer, qui est devenue un abîme, entre, d'un côté, les disciplines dites scientifiques, et de l'autre côté, les disciplines dites littéraires. Et il se trouve que la philosophie a été versée du côté littéraire. Alors, bien sûr, il y a des philosophes des sciences, d'accord, je suis d'accord, mais enfin, n'empêche que si vous prenez l'université, en fait, la philosophie, ça s'enseigne à la faculté des lettres, et non pas à la faculté des sciences. Alors, le développement scientifique moderne allant dans le sens d'une mathématisation croissante, et la mathématisation étant assimilée au fait de compter, la philosophie, du côté des lettres, a eu tendance à faire de nécessité vertu et à afficher une indifférence croissante, voire un dédain à l'intérieur des questions. À l'égard des questions quantitatives qui ont été abandonnées aux scientifiques et à leurs calculs. Comme si se préoccuper de quantité était en dessous de la dignité du philosophe, comme si le philosophe devait imiter les grands seigneurs du passé qui, comme ça chacun sait, dans leur largesse, ne comptaient pas. Et donc, de ce fait, au moment même où le nombre ne cessait de gagner en importance dans l'évolution de nos sociétés, les questions de taille et d'échelle sont devenues une tâche aveugle de la réflexion philosophique moderne et contemporaine. Et cette ignorance est très dangereuse, car de même que chaque forme vivante se développe à une certaine échelle et ne demeure viable qu'entre certaines bornes, de même la plupart des concepts avec lesquels nous pensons le réel, se sont élaborés à l'intérieur d'un certain horizon quantitatif, au-delà duquel ils perdent leur sens ou deviennent quelque chose de tout à fait différent. Et faute d'incorporer à la définition des notions une échelle de pertinence, faute de comprendre qu'encore une fois, la taille d'une chose, ça n'est pas un paramètre qui se surajoute à l'essence de la chose, mais ça fait partie de la définition même de la chose, eh bien, faute de prendre en compte cela, la pensée conceptuelle en vient à complètement s'égarer et à manier des concepts qui ne veulent plus rien dire. Alors, dans le temps qui me reste, je vais prendre juste quelques exemples. Un que j'aime bien, c'est celui de la technique. Et vous voyez, déjà, je cède à une habitude courante qui est de parler de la technique. Comme s'il y avait une essence de la technique qui se conservait inchangée, quelles que soient les techniques que l'on considère. On emploie le mot technique aussi bien pour désigner la taille des silex par les hommes préhistoriques que les centrales nucléaires d'aujourd'hui. Au nom de quoi, d'ailleurs, celui qui est hostile aux centrales nucléaires se voit d'être accusé d'être contre la technique. Et avec une mentalité pareille, nous en serions encore à l'âge des cavernes, etc. Comme s'il y avait une essence de la technique qui se conservait inchangée entre la taille de la pierre et la fission des atomes. Comme si une pratique qui ne suppose que des cailloux et l'usage de ses mains était commensurable à un complexe scientifico-industrialo-économique qui n'est à la mesure de personne. Et en appelant tout cela indistinctement technique, on n'éclaire pas la pensée, on l'aveugle. Et donc, en fait, là, c'est un bon exemple, si vous voulez, de ces dérives philosophiques dont je parle, où on va manier des concepts qui, lorsqu'ils sont complètement déconnectés de l'échelle auquel ils s'appliquent, amènent en fait à dire tout et n'importe quoi. Un autre concept très problématique aujourd'hui, c'est celui de société. On emploie le même terme pour désigner aussi bien une tribu de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, qui comptait quelques dizaines ou centaines d'individus, une cité grecque de quelques dizaines de milliers d'habitants, je parle de la Grèce classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et puis un petit État de centaines de milliers ou de quelques millions d'habitants, ou bien les gigantesques entités politiques contemporaines, qui précisément d'ailleurs du fait de leur gigantisme n'ont plus rien de politique, parce qu'à cette échelle, la politique ne peut à peu près plus rien, l'Union européenne étant un bon exemple de la chose. Alors parmi les rares penseurs qui se sont appliqués à souligner les ruptures qui interviennent en cours de route, on peut citer un sociologue allemand du 19e siècle, Ferdinand Tönnies, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Communauté et société » et qui caractérise précisément la modernité comme un passage d'une forme d'organisation communautaire à une nouvelle forme d'organisation qui est la société et qui est essentiellement due précisément à un changement d'échelle. C'est-à-dire que la manière qu'on a de vivre avec les autres ne peut pas être la même selon qu'on vit dans une petite communauté ou dans une grande société. Vous voyez, une grande société, ce n'est pas comme une petite communauté en plus grand. Non, c'est pareil que ce que je disais avec les animaux, enfin, analogiquement, c'est-à-dire que nécessairement, il y a des ruptures qui interviennent en cours de route et lorsqu'on change d'échelle, eh bien, le type d'organisation doit nécessairement changer également. Je peux citer aussi un penseur très libéral du XXe siècle, Friedrich Hayek, qui lui aussi à sa manière opposait les communautés anciennes et traditionnelles aux grandes sociétés modernes. Et il disait « Donner le même nom de société à des formations aussi complètement différentes que le compagnonnage d'individus en contact personnel constant et la structure formée par les millions d'hommes qui sont reliés seulement par des signaux résultant de chaînes commerciales longues et infiniment ramifiées et non seulement égarants sur le plan des faits, mais presque toujours révélateur d'un désir caché de remodeler cet ordre, de remodeler les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, conformément aux idéaux d'un compagnonnage vers lequel nos émotions nous poussent. » Puisque selon Hayek, en fait, nous sommes, et d'ailleurs je pense que sur ce point il a tout à fait raison, en fait, l'homme est essentiellement adapté à la vie qu'il a menée depuis son apparition sur la Terre jusqu'à il y a quelques siècles, c'est-à-dire la vie à l'intérieur de communautés de taille assez limitée. Et nous sommes, depuis quelques siècles, plongés de plus en plus dans des formes de vie qui sont de plus en plus décalés par rapport à ces formes auxquelles les hommes étaient accoutumés. Je pense qu'un grand nombre des pathologies modernes et des souffrances modernes vient de ce décalage entre nos facultés fondamentales et les conditions sociales dans lesquelles nous sommes amenés à vivre, du seul fait, enfin, il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans les différences entre les communautés anciennes et les sociétés modernes, mais l'une d'entre elles, c'est précisément la taille des groupes humains à l'intérieur desquels nous sommes appelés à vivre. Il faut voir une rupture, par exemple, extraordinaire, c'est que dans l'humanité, c'est que jusqu'à une date relativement récente, disons en Europe jusqu'au XVIIIe siècle, l'essentiel des gens vivaient dans un environnement où, du matin au soir, tous les gens qu'ils étaient amenés à rencontrer étaient des gens connus, qu'ils savaient appeler par leur nom. Aujourd'hui, lorsque l'on vit dans une grande ville, l'essentiel des gens que l'on va croiser dans la journée sont des gens que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le nom. Vous voyez ? Et en fait, ça, c'est simplement dû à quoi ? Ben, simplement, précisément, c'est une question de taille. Par exemple, ça a été étudié dans nos facultés cognitives. Le maximum de gens qu'on peut connaître, c'est 5 000. Voilà, au-delà, on ne peut pas aller. Alors bon, si on vit dans une ville qui fait 1 million d'habitants, bah, de toute façon, ne serait-ce que par la taille, ça veut dire que l'essentiel des gens, on ne peut pas les connaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la société moderne nous met potentiellement en contact avec donc, des millions de gens, même maintenant avec les voyages. C'est à la planète entière qui compte 7-8 milliards d'habitants. Voilà, donc on a une potentialité de contact absolument extraordinaire. Non, si on regarde l'agenda téléphonique de quelqu'un, eh ben en fait, ça reste toujours la même taille, c'est en gros quelques centaines. Voilà. Et en fait, c'est parce que c'est lié à nos facultés. L'être humain, fondamentalement, il est fait pour vivre en contact avec quelques centaines de personnes. Et finalement, maintenant que la société moderne nous fait vivre dans un environnement qui est très décalé par rapport à ses facultés, eh bien, chacun se recrée à l'intérieur de ce grand monde, un monde qui est à sa mesure, qui reste toujours la même. Bon, et puis je terminerai aussi sur un autre mot qui prête à beaucoup de malentendus aujourd'hui, lorsque l'on ne tient pas compte des questions de taille, c'est celui de démocratie. Montesquieu, au XVIIIe siècle, dans son maître ouvrage de l'esprit des lois, a particulièrement insisté sur l'importance de la taille d'une société quant à la façon dont celle-ci est susceptible de se gouverner. Il considérait que la démocratie n'était viable que pour de petites populations. Rousseau, grand penseur du XVIIIe siècle, était du même avis. Le premier réquisit que mettait Rousseau en vue d'un gouvernement démocratique était, je cite, « un État très petit » où le peuple soit facile à rassembler et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres. Donc pour l'un et l'autre, pour Montesquieu comme pour Rousseau, la démocratie supposait de plus des mœurs simples et sobres. Je cite Montesquieu, l'amour de la démocratie est encore l'amour de la frugalité. Donc les démocraties actuelles, par leur taille, comme par leur amour des richesses et leur promotion permanente de la consommation, ne sauraient être des démocraties, en tout cas au sens que donnaient au terme Montesquieu et Rousseau. Et pourtant, cela ne semble gêner personne d'employer le même terme de démocratie pour évoquer le système politique de l'Athènes du Ve siècle avant notre ère, comme celui de l'Inde contemporaine, comme s'il y avait une essence de la démocratie, là c'est comme pour la technique, hein, comme s'il y avait une essence de la démocratie qui demeurait inchangée lorsqu'on passe d'une population, alors pour l'Athènes du Ve siècle, c'était à peu près 400 000 habitants, dont un dixième seulement de citoyens, et pour l'Inde contemporaine, on a 1 milliard 200 millions d'habitants, avec plus de 700 millions de votants aux élections générales. C'est-à-dire qu'en fait, là, les échelles sont multipliées par quelque chose qui est de l'ordre de 10 000. Eh bien, quand on multiplie quelque chose de l'ordre de 10 000 par 10 000, eh bien, ça n'est plus du tout la même chose. C'est un peu, d'employer le même terme de démocratie dans les deux cas, c'est un peu comme si on employait le même mot pour désigner les tables et les vaches, au prétexte que tables et vaches ont 4 pieds. Comme si leur caractère commun de quadrupède constituait l'essentiel en comparaison duquel ce qui les différencie par ailleurs n'était que détail. Et à cet égard, comme à bien d'autres, les Grecs étaient de meilleurs penseurs que nous, et Aristote, dans sa politique, affirmait que le bien pour un État, comme pour toute chose, est qu'il ait la taille appropriée à sa nature et à sa fonction. Et pour Aristote, il résultait clairement de l'examen des faits, je cite, qu'il est difficile et peut-être impossible pour un État dont la population est trop nombreuse d'être régi par de bonnes lois. En tout cas, parmi les États ayant la réputation d'être sagement gouvernés, nous n'en voyons aucun se relâcher de sa vigilance en ce qui touche le chiffre de sa population. Il existe en fait une certaine mesure de grandeur pour un État, comme il y en a aussi pour tout le reste, animaux, plantes, instruments. Aucun de ces êtres, s'il est trop petit ou d'une grandeur excessive, ne conservera sa capacité à remplir sa fonction, mais tantôt il aura entièrement perdu sa nature et tantôt verra sa condition viciée. Fin de citation. Et donc Aristote en concluait que la limite idéale à observer pour un État, c'est la plus grande extension possible de la population, compatible avec une vie se suffisant elle-même et qui puisse être embrassée facilement d'un coup d'œil. Alors vous pourrez dire, bon, ça c'est Aristote, c'est les philosophes, de toute façon les philosophes, ils ont toujours raconté des histoires à leur manière, la réalité n'a jamais correspondu. En fait, là en l'occurrence, Aristote parle de réalité très concrète dans la Grèce qu'il connaît, hein, puisque les villes grecques, lorsque précisément elles voyaient le chiffre de leur population devenir trop important, eh bien ce qu'elles disaient à certains, aux nouveaux citoyens, c'est de, écoutez, voilà, on vous donne des bateaux, on vous donne des outils, on vous donne des vêtements, etc. Et puis vous allez fonder une colonie ailleurs. Et là, vous retrouvez exactement le modèle de la cellule, si vous voulez, qui, lorsqu'elle grossit à un moment donné, pour demeurer viable, pour que ça reste des cités grecques au sens où les Grecs l'entendaient, ben, ils savaient qu'il ne fallait pas que ça devienne trop gros. Et donc, il fallait que les cités et des cités-filles, si vous voulez, qui recommençaient le même modèle ailleurs. Ensuite, ce modèle de la cité grecque a été complètement laminé par un nouveau modèle qui s'est imposé à partir d'Alexandre, qui a été le modèle de l'Empire. Hein, ça a d'abord été l'Empire d'Alexandre, et puis après, plus tard, l'Empire romain, qui a amalgamé, justement, voulu amalgamer en une seule entité politique l'ensemble du monde connu. Bon, vous savez que l'Empire romain, ça s'est effondré. À ce moment-là, on a eu la période médiévale où, justement, on est retourné à des échelles très petites. Et puis ensuite, petit à petit, au fil de l'histoire européenne, vous allez avoir la reconstitution d'entités plus grandes, la constitution de royaumes qui vont avoir tendance à annexer toujours plus de territoires, pour arriver aux États-nations, et puis aujourd'hui qu'on essaye de dépasser avec une structure continentale, etc., avec la fin qu'on peut prédire à ce genre de monstres. En fait, aujourd'hui, la plupart des maux qui nous accablent sont liés de près ou de loin à des questions de taille. La thèse centrale d'un ouvrage écrit par un Autrichien malheureusement très inconnu, qui s'appelle Léopold Kohr. Son livre majeur a été écrit dans les années 50, ça s'appelle The Breakdown of Nations, ça n'a jamais été traduit en français, on pourrait traduire ça par l'effondrement des nations. La thèse centrale du livre de Léopold Kohr est remarquablement simple, je cite, « Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose, alors ça c'est la grande phrase de Léopold Kohr, partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. » Voilà. Alors bon, l'assertion de Léopold Kohr dans sa prétention à l'universalité est exagérée, et ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que ce qui est bon, ça n'est pas, comme Kohr le dit, le petit, c'est le bien proportionné. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, que nous sommes dans un monde où le problème est essentiellement celui de la taille excessive, pour retrouver des choses qui soient à la bonne taille, pour retrouver des choses qui soient bien proportionnées, il faut plutôt décroître en taille que croître en taille. Mais il faut faire attention que c'est pas le small is beautiful, c'est pas le petit qui est bien, c'est ce qui est à la bonne taille. Et donc, en fait, là, il faut comprendre la phrase de Cohr comme étant conjoncturelle. Dans un monde qui est en proie à la trop grande taille, évidemment, c'est le petit qui devient souhaitable. Mais ce n'est pas le petit en tant que tel, c'est le petit en tant qu'il nous ferait cheminer vers quelque chose qui serait à la meilleure taille. Donc, ce serait vrai pour la technique. Trouver dans la technique, garder à l'esprit qu'une bonne technique... pas que la technique est bonne ou mauvaise, justement, c'est ça les faux débats. Être pour ou contre la technique, ça n'a aucun sens. L'être humain, il a besoin de technique, c'est évident. Donc la question, c'est quelles sont les bonnes techniques? Quelles sont les techniques, justement, qui ont la bonne proportion? Et pour que la technique soit bonne, il faut qu'une proportionnalité soit respectée entre les moyens et les fins, d'une part. Donc il ne faut pas de déchaînement technique pour remplir des tâches frivoles ou qui pourraient être accomplies plus simplement. Et puis, il faut qu'il y ait une proportionnalité qui soit respectée entre les fins poursuivies et les facultés de l'être humain, d'autre part. Ce que permet la technique doit demeurer commensurable avec les facultés humaines, sans quoi la technique se met à humilier l'homme, à l'asservir au lieu de le servir. Pour la société, puisque j'ai évoqué aussi, il s'agit de respecter les proportions qui permettent l'épanouissement et la fructification. Alors, pour reprendre des termes grecs, je pourrais dire de l'anthropos en tant que zone politikon, c'est-à-dire de l'homme, de l'être humain en tant qu'être s'accomplissant à l'intérieur d'une cité, c'est-à-dire dans une vie commune. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, je crois. Et puis peut-être que c'est mieux qu'il y ait des questions plutôt que je vous accable encore avec...
Vous ne nous accablez pas.
Non. Voilà. Je vous remercie.
Bien, alors, merci beaucoup, Olivier Rey, pour cette analyse solide des questions de taille à partir de la biologie, des mathématiques et de la physique, pour commencer. Et puis, ensuite, avec cet éclairage sur les utilisations du terme de technique, de société, de démocratie, on retrouve dans ce livre, une question de taille, ces éléments développés, bien plus développés évidemment, hein, qui touchent à de nombreux, qui ont des incidences, disons, sur de nombreux autres phénomènes de notre société que Olivier Rey n'a pas eu le temps de nous présenter encore. Mais évidemment, cette question de taille est une question cruciale. Je pense évidemment aussi, hein, vous l'avez sans doute eu en tête pendant cette conférence, à la question du mouvement migratoire aujourd'hui en Occident. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la poussée de l'islam, c'est la poussée de Daesh. Sauf que derrière Daesh, on sait aussi qu'il y a une pression démographique extrêmement forte dans ces pays de l'Orient, que ce sont des populations qui n'arrivent plus à se nourrir aussi parce qu'elles connaissent la pauvreté, elles connaissent une grande difficulté à avoir accès aux besoins, à ces besoins, disons, primaires, aux besoins secondaires aussi, hein, en copiant ce qu'elles voient en Occident. D'ailleurs, vous développez aussi cette question du mémétisme. Et tous ces besoins engendrent évidemment une insatisfaction, une radicalisation et un refuge que cette population trouve dans l'islam et qui pousse, à cause de la guerre, ces mouvements migratoires vers l'Occident. Donc, je dirais, avec l'actualité, on est en plein dans ces questions de taille. Et je suppose, évidemment, que ça a suscité aussi, de votre part, des remarques, des interrogations. Et donc, on se laisse maintenant quelques moments pour débattre. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Il y a des micros que Franck et Josias peuvent vous donner. Il faut utiliser les micros parce que sinon, dans l'enregistrement, après, les personnes qui écoutent les conférences qui sont retransmises n'entendent pas les questions. Alors, ils entendent les réponses, mais pas les questions, donc c'est un peu dommage. Même s'ils peuvent deviner, en entendant la réponse, la question qui a été posée. Parlez bien devant le micro. Et il faut qu'il soit allumé aussi, c'est une question technique justement. Parce qu'on est nombreux, ça c'est la taille.
Alors l'impression qui ressort actuellement, c'est que plus personne ne maîtrise plus rien du tout. C'est ce qui est un peu inquiétant.
Oui, ben, je souscris, j'en suis bien malheureux, mais je souscris tout à fait à ce jugement. Et je pense que si précisément plus personne ne maîtrise véritablement les choses, c'est que nous avons laissé les choses grossir et dépasser les seuils en deçà desquels elles restaient maîtrisables. Et donc, du coup, nous sommes aujourd'hui embarqués dans des processus qui sont devenus trop massifs, trop gros, pour faire l'objet d'une quelconque maîtrise. Alors, ce constat-là peut être très désespérant, parce que finalement, voilà, on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire. Alors, en fait, ma position est celle-ci, c'est-à-dire qu'à court terme, je pense qu'effectivement, la situation, il ne faut pas se leurrer. Évidemment, autour de soi, on peut toujours essayer de faire au mieux, il faut toujours essayer de faire au mieux, mais enfin, globalement, de toute façon, effectivement, nous sommes embarqués dans un processus que personne ne maîtrise et qui est inarrêtable. En même temps, ce que je pense, c'est que ce processus va aller se fracasser à un peu plus long terme. Alors moi, je ne peux pas vous donner d'échéance précise, mais enfin, en tout cas, au cours du siècle, je pense qu'il va y avoir des événements très importants qui vont se produire. Ce processus va de lui-même s'effondrer. Et alors, ce à quoi il faut être prêt, me semble-t-il...
Vous voulez dire qu'on va vers des catastrophes?
Oui, enfin, en tout cas, un effondrement du système dans lequel nous vivons. Mais évidemment, cet effondrement, il est très problématique parce qu'il va occasionner beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, c'est absolument certain. Mais après... cet effondrement est aussi la promesse de pouvoir retrouver des modes de vie qui soient en fait plus qui nous conviennent davantage. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que notre rapport, il me semble aujourd'hui que notre rapport à la catastrophe est très ambigu. Et là, j'en veux pour preuve la grande vogue qui s'est développée depuis les années 70. Hein, c'est très net, des films catastrophes. Le film catastrophe, c'est très ambigu, parce que d'un côté, on assiste à une catastrophe, il y a des tas de victimes, c'est terrible, etc. Et en même temps, ce que l'on voit, c'est que des êtres humains, grâce à leur solidarité, grâce en général à des qualités très archaïques, hein, d'amitié, de solidarité, de débrouillardise, etc., finalement, arrivent à retrouver une forme d'humanité qui n'était plus la leur, précisément, dans le système, lorsqu'il fonctionnait encore. Et donc, en fait, je pense qu'à plus long terme, les perspectives ne sont pas du tout noires, parce que précisément, on a devant nous la perspective de pouvoir retrouver des modes de vie meilleurs. Mais ce qui est important, c'est, à mon sens, de ne pas être submergé par le désarroi et la détresse lorsque le système va de plus en plus donner des signes de faiblesse et d'effondrement. Parce que le très grand risque, c'est à ce moment-là que l'humanité, submergée par sa panique, aille se précipiter dans des formes monstrueuses, totalitaires ou que sais-je, au lieu de saisir les ratés du système pour renouer avec des modes de vie meilleurs.
Oui, pour ma part, j'aimerais amener une nuance dans le fait qu'on ne maîtrise plus rien. Il me semble que quand même, quand on peut contrôler au millième de seconde pour envoyer des fusées dans l'espace qui arrivent à se poser à des endroits que l'on croyait improbables, l'histoire de l'astronef, là, ou ce qu'on est arrivé à faire, bon, il faut une certaine maîtrise, mais ça pose la question à plus long terme de ce qu'on va en faire pour aller plus loin, à savoir la science sans conscience. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de cette science? Et puis, il y a un deuxième volet, que je crois c'est l'évolution, quand on regarde sur une échelle de temps très très grande, est-ce que l'évolution, justement, d'un point de vue logique, n'est pas allé pendant des millénaires peut-être pas assez vite ou a été freiné par des événements, quels qu'ils soient, et alors que maintenant on a une évolution exponentielle. Est-ce que ce n'est pas d'un côté pour rattraper, pour arriver à faire une moyenne? Malgré tout, je rejoins dans vos propos qu'on va passer par un stade qui va forcément freiner pour arriver à cette histoire de science et de conscience, peut-être.
Alors, Franck Belloir l'avait dit tout à l'heure, un auteur dont que j'ai beaucoup, sur lequel je me suis beaucoup appuyé dans mon travail, c'est Ivan Illich. Un autre auteur que je cite aussi moins, mais que je cite aussi et qui était qui s'entendait très bien avec Ivan Illich, c'est Jacques Ellul. Et Jacques Ellul a écrit un livre très intéressant qui est toujours très actuel, qui s'appelle « Le système technicien » et qui décrit justement le moment où la technique, qui était là pour résoudre des problèmes que se posaient les êtres humains dans leur existence, s'autonomise, devient un système qui pose ses propres exigences, qui a sa propre logique de développement, et derrière lesquelles les hommes se mettent à courir comme ils peuvent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils sont de plus en plus distancés. Alors je suis d'accord avec vous que c'est absolument des performances absolument démentielles. On arrive à aller poser une sonde sur une comète, enfin, c'est des choses absolument extraordinaires. Mais si vous voulez... Pourquoi fait-on cela? Pourquoi va-t-on déposer une sonde sur une comète? C'est aussi parce que la science et la technique se sont autonomisées, elles fonctionnent, elles se développent, et finalement, donc, elles nous rendent capables de faire certaines choses, et donc, du coup, comme on est capable de faire ces choses, eh bien, on va les faire. Alors, il se trouve que la physique moderne, elle nous permet d'envoyer une sonde sur la comète. Alors, donc, on envoie une sonde sur la comète. Mais en revanche, il y a des tas de choses qui sont très, extrêmement importantes pour nous et qu'elle n'est pas capable de faire. Et à celle-là, justement, on ne s'occupe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de logique technicienne qui s'est mise en place. Et donc, on fait tout ce qu'il est possible de faire techniquement, mais de manière complètement déconnectée de besoins qui seraient tirés de notre existence. Vous voyez, par exemple, récemment, il y avait une conférence dont le titre était « L'humain au défi du numérique ». Et alors, vous voyez bien la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, voilà, il y a le numérique qui se développe, qui se retrouve absolument partout. Et alors, la conférence, c'était l'humain au défi du numérique, c'était comment rester humain à l'intérieur de cet univers numérique. Comment avoir des usages humains du numérique, etc. Mais si vous voulez, normalement, la question, si on était dans une anthropologie normale de la technique, ce serait, voilà, les humains ont des questions qu'ils se posent, et puis ils essayent, à ce moment-là, d'avoir une technique qui résout leurs questions. Donc la vraie question, ça devrait être le numérique au défi de l'humain. C'est-à-dire, voilà, il y a l'humain, et puis est-ce que le numérique peut nous rendre des services? Non, là, il y a le numérique, et puis comment l'humain peut se débrouiller à l'intérieur du monde numérique? Et là, on voit très très bien que justement, la technique devient le donné auquel l'homme doit s'adapter. Alors l'homme, il a tellement de plus en plus de mal à s'adapter, au point que arrivent les transhumanistes, qui disent, écoutez, de toute façon, vous, nous autres humains, nous sommes vraiment minables par rapport à ce monde technique, on n'arrive plus à suivre, et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre des implants, il faut devenir des cyborgs, etc., pour pouvoir continuer à vivre à l'intérieur de cet univers numérique. Et donc là, on voit que, si vous voulez, la maîtrise qu'offre la technique aujourd'hui, en fait... Elle débouche sur une non-maîtrise parce que à partir du moment où la technique peut maîtriser certaines choses, eh bien, elle se développe dans ces directions-là et puis l'être humain, lui, doit courir derrière et donc, en fait, il ne maîtrise absolument pas le processus. Il est à courir derrière ce que la technique maîtrise.
Il y a quelques jours, j'ai assisté à une conférence de Bertrand Vergely qui justement parlait de transhumanisme, etc. Et lui, il était, je l'ai trouvé plus pessimiste encore. Il a dit que, puisque la science maintenant, c'est une fuite en avant, elle fera toujours, on fera toujours tout ce qu'elle pourra faire. Et il dit qu'on rentrait dans un monde absolument totalitaire. On était en train de rentrer dans un monde absolument totalitaire.
Bah, écoutez, c'est une possibilité que l'on ne peut pas exclure. Enfin, moi, je ne suis pas futurologue. Ce que j'ai tendance à pressentir, c'est qu'en tout cas, le monde tel qu'on le connaît, si on poursuit justement la trajectoire, on voit qu'à un moment donné, ça doit craquer. Et il me semble que ça peut donner le pire, c'est ce que vous décrivez, mais ça peut aussi réouvrir des possibilités qui, aujourd'hui, sont fermées. Et précisément, je pense que peut-être que le fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre, c'est l'attitude que, dès aujourd'hui, on adopte vis-à-vis de cette perspective. Est-ce que on attend si on voit cette perspective comme étant quelque chose d'épouvantable et où finalement on est un peu tétanisé vis-à-vis de cette perspective, ou bien finalement on se dit mais voilà ça, tout ce que aujourd'hui finalement cette structure dans laquelle on est embarqué, ce processus dans lequel on est embarqué, les vies que ça nous contraint de mener. Eh bien, ce sera l'occasion de reprendre, de retrouver une certaine maîtrise sur nos existences. Il me semble que la question est ouverte. Il n'y a pas de, je pense pas que ce soit fixé pour l'instant.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des domaines où il y aurait du non-retour? Je pense par exemple à l'agriculture à grande taille qui produit une pollution importante. Au changement du climat, est-ce que ce ne sera pas du non-retour à cause de ces grandes tailles?
Là, vous touchez une question qui est fondamentale. Ce qui est terrible dans la pensée économique qui domine notre monde, c'est que, en fait, les économistes ne connaissent pas l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'ils disent toujours, si ça va mal dans une certaine direction, finalement, les gens s'en rendront compte et puis on ira dans l'autre direction, les prix enverront les signaux qu'il faut, etc. Mais sauf que ce dont ils ne tiennent absolument pas compte, c'est que par exemple, si vous prenez dans le vivant, si une espèce disparaît, si vous vous rendez compte après que c'est une catastrophe que cette espèce ait disparu, c'est pas en claquant dans les doigts que vous la ferez réapparaître. Elle a disparu. Et là, justement, c'est aussi pareil pour ce qui se passe autour des bouleversements qui sont, du régime auquel est soumis la nature depuis la révolution industrielle. L'immense risque, c'est précisément de franchir des seuils qui produisent des destructions terribles. En fait, il y a un certain nombre de gens qui travaillent en écologie, qui sont extrêmement inquiets. Parce que là, vous savez que les espèces végétales et animales disparaissent à un rythme qui a tendance à s'accélérer. Mais là encore, à cause d'effets de non-linéarité, il se peut qu'on ait tout d'un coup un effondrement terrible. C'est-à-dire que vous avez un écosystème qui tient parce que vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'espèces qui vivent, qui coexistent. Alors si vous en supprimez une, deux, trois, 10, 20, 50, 100, en fait, l'écosystème, il arrive à se maintenir. Et puis, il se peut qu'arriver à un moment donné, si vous voulez, vous ayez un effondrement brutal, où là, tout d'un coup, c'est plus des quelques dizaines ou quelques centaines d'espèces qui disparaissent d'un coup, mais c'est pratiquement toutes, quoi. Effectivement, c'est les immenses dangers auxquels on est confronté. Mais pour ce qui est de l'agriculture, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est d'une part un désastre écologique, puisque ça stérilise complètement les sols, c'est effrayant, et en plus, globalement, c'est une agriculture qui produit peu. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous mondialisez les marchés, donc vous mettez tous les producteurs en concurrence les uns avec les autres. Donc par exemple, si vous prenez une production particulière, celle du blé, ça veut dire que tous les producteurs de blé dans le monde sont en concurrence les uns avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les seuls qui vont résister à la concurrence, ce sont ceux qui cultivent les terres qui sont les plus fertiles pour le blé. Parce qu'ils ont des rendements supérieurs, et donc économiquement, ils écrasent complètement ceux qui ont des rendements inférieurs. Si vous aviez, comme autrefois, des denrées qui voyageaient beaucoup moins, où il fallait se nourrir avec des denrées qui venaient de la région où on était, eh bien, en fait, vous aviez des terres qui aujourd'hui ne sont plus exploitées parce qu'elles sont écrasées par la concurrence de terres plus fertiles, mais qui seraient tout à fait capables, si elles étaient cultivées, de nourrir les populations locales. Vous allez en Sicile, par exemple. La Sicile, dans l'Antiquité, ça approvisionnait Rome en blé. Aujourd'hui, la Sicile, c'est un pays montagneux. Vous ne pouvez pas mettre des moissonneuses-batteuses, etc. Il n'y a plus de blé. Voilà, on va pas se fatiguer à aller cultiver du blé en Sicile, alors qu'on a les champs de la Beauce ou les grandes plaines d'Ukraine. Et donc là, en fait, en réalité, quand on nous dit, oui, voilà, on n'arrive plus à nourrir le monde, il faut absolument des OGM, parce que sinon, on va à la catastrophe, c'est complètement absurde. En réalité, si aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas de manque de nourriture, et deuxièmement, s'il y a un manque à certains endroits, c'est précisément à cause de la circulation mondiale des denrées, des productions, qui ont détruit complètement les agricultures locales et qui n'avaient pas les rendements qui leur permettaient de survivre à l'intérieur de cette concurrence. Mais sinon, c'est ça. Il y a une réserve en terre, par exemple, qui est énorme. Mais cela dit, avec des rendements qui ne sont pas ceux qui... Mais il y a quelqu'un qui a dit de manière très, très juste que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est une agriculture de type minier. La mine, vous savez, c'est... Voilà, il y a eu du charbon ou du pétrole qui s'est formé pendant des périodes, pendant des millions d'années, il y a de ça très, très longtemps. Et puis nous, en quelques dizaines ou quelques centaines d'années, on va tout pomper. Et en fait, actuellement, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée, elle est de ce type-là. C'est-à-dire qu'on se précipite sur les terres les plus fertiles pour en tirer le maximum en mettant des engrais et des insecticides et des tas de produits comme ça qui, en fait, au bout du compte, vont stériliser ces sols qui feront qu'après, plus rien ne pourra y pousser. Mais en revanche, on peut avoir une agriculture durable. Et justement, alors là, les petites exploitations sont beaucoup plus productives que les grandes exploitations.
Bonsoir. Moi, j'avais une question qui, par rapport au problème de la taille physique, parce que vous évoquez le problème de taille physique. C'est essentiellement ce que je ressens dans votre discours. Quand on prend au niveau national, vous avez des communes qui sont de petite taille, vous avez des villes un peu plus importantes, on constitue tous une nation. On a des petites cellules au sein d'une cellule beaucoup plus grande. Est-ce que le problème n'est pas peut-être une question de taille, mais simplement de pensée ? C'est-à-dire qu'à force de penser plus grand, est-ce qu'on n'a pas oublié la chose principale, l'homme ?
En fait, Hannah Arendt a écrit un livre, On Revolution, qui a été traduit en français sous le titre Essai sur la Révolution. La traduction est très mauvaise d'ailleurs du livre, mais enfin bon. Où elle fait la différence entre la Révolution américaine et la Révolution française, au bénéfice de la Révolution américaine. En fait, ce que dit Hannah Arendt, c'est qu'aux États-Unis, le pays s'est constitué à partir de communautés autonomes. Hein, ce sont essentiellement des colons européens qui ont commencé. Alors bon, là, je laisse de côté la question terrible, hein, qui a été celle de l'extermination des Indiens. Je parle donc des colons qui ont été installés aux États-Unis pour des questions de liberté religieuse, de vivre de la manière dont ils l'entendaient. Ils se sont constitués en communautés, et puis ces communautés, une fois qu'elles ont été suffisamment établies, se sont dites, bon, on ne va pas continuer à vivre simplement chaque communauté en vase clos, on va se donner des structures surplombantes au-dessus, et donc en fait c'est là que se sont créés les différents États, le Massachusetts, la Pennsylvanie, enfin la Virginie, la Caroline, tout ça. Et puis ensuite, ces États se sont dit, à l'échelle, on va encore créer une échelle supérieure, ça va être celle de l'Union. Et les États-Unis restent un État fédéral. C'est pour ça, par exemple, que le président de l'Union n'est pas élu au suffrage universel direct, hein, mais c'est dans chaque État élit des représentants qui ensuite se réunissent pour élire le président. Et c'est encore un témoignage du fait que les États-Unis sont un pays qui s'est formé par le bas. La Révolution française, c'est tout à fait différent. Il y avait une monarchie extrêmement centralisée. La Révolution, on a coupé la tête du roi, on a dit c'est le peuple souverain, mais en fait on a gardé exactement la structure centralisée monarchique. En fait, la centralisation monarchique a précédé la centralisation jacobine. On parle de jacobinisme, mais en fait, la monarchie au XVIIIe siècle était tout à fait sur ce modèle-là. Et ce qui fait que, en fait, en France, si vous voulez, vous avez effectivement des structures à petite échelle, hein, la commune, le canton, enfin, etc. Mais c'est comme si, en fait, c'était tout le pouvoir en réalité était concentré dans une tête, et puis après cette tête concédait ensuite un certain nombre de pouvoirs à des échelles plus petites. C'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas des petites entités qui se réunissent dans une communauté plus grande, c'est un pouvoir central qui délègue un certain nombre de fonctions à des échelles plus petites. Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que la démocratie locale en France, et pas seulement en France, est très peu vivace. C'est qu'en fait, ce n'est pas des citoyens qui sont directement responsables des affaires locales. C'est, bon, on leur laisse des miettes. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est que, et Hannah Arendt l'avait quand même remarqué aussi, mais ça s'est aggravé depuis, c'est que les États-Unis, qui était le modèle d'une construction d'un État par le bas, en réalité ressemble de plus en plus à la structure européenne, c'est-à-dire devient un pays de plus en plus centralisé. Et là, on rejoint quand même aussi la question de la technique, parce que ces phénomènes de centralisation sont très liés aussi à un certain état de développement technique, c'est-à-dire qu'un certain état de sophistication technique impose une forme de régime technocratique centralisé. Si vous prenez par exemple les centrales nucléaires, dans les centrales nucléaires, l'objection récurrente qui est toujours mise en avant, c'est les déchets, les catastrophes, Fukushima, les risques. Bon, alors je ne dis pas, ces risques existent, peuvent être assez terrifiants, mais enfin de toute façon, la chimie a des risques, enfin tout a des risques, hein. Bon. Mais ce qu'il y a également avec les centrales nucléaires, si vous voulez, c'est qu'une centrale nucléaire, ça produit une électricité absolument gigantesque. Donc il vous faut un réseau électrique énorme pour justifier l'existence de la centrale nucléaire. C'est une technologie extrêmement sophistiquée, donc en fait, qui demande nécessairement une technocratie. Et donc, en fait, vous voyez que là, la centralisation, elle est aussi solidaire d'un certain état de développement technique. Et aujourd'hui, justement, comme nos modes de vie sont devenus complètement tributaires de ces instruments techniques, c'est pour ça que pour l'instant, nous sommes à l'intérieur d'un processus auquel, bon gré mal gré, nous sommes obligés tous, à l'endroit où on est, de collaborer. Et c'est aussi, et ça encore, le dit, qui rend notre rapport à la catastrophe ambigu, Parce que d'un côté, la catastrophe nous mettrait dans une situation très précaire, mais en même temps nous rendrait une liberté qu'on n'a plus aujourd'hui.
Merci pour votre éclairage sur ces thèmes. Et on se rend compte qu'il y a le premier aspect, c'est qu'on est il y a une sagesse, enfin un bon sens dans l'observation qui montre aux hommes déjà de pas aller dans la démesure. On le voit que ce soit pour les animaux, à tous les niveaux. Et donc ça, c'est le premier constat. Et apparemment aussi le deuxième constat, c'est que l'homme qui ne prend pas garde, eh bien, va quand même devant des drames ou des grosses difficultés. Et c'est bien aussi de comprendre, enfin de pouvoir le voir de cette manière. Mais on voit aussi bien au niveau dans un pays, on a une surinformation, on a énormément, soi-disant, des choses pour se détendre, pour s'amuser. On est toujours pris par le temps, on est débordé, on est stressé. Dans le travail, c'est toujours la tension, c'est épuisant. Alors des fois, c'est vraiment, on essaie de comprendre pourquoi et comment. Quand on travaille selon les endroits ou dans une grosse administration, on voit que souvent les choses ne sont pas cohérentes. On a chacun au niveau personnel, on se dit mais il faudrait faire comme ça et comme ça. Ce qu'on nous demande, c'est pas censé. Et je pense de par les contraintes ou les obligations, on arrive à un non-sens. Et ce que vous nous partagez, enfin moi je vois comme ça, c'est un état de fait et que quelque part on a aussi le droit de savoir, de comprendre, mieux se situer dans la situation qu'on vit actuellement. Et c'est vrai que c'est plutôt c'est triste actuellement, quoi.
Bah, ce que vous me dites me fait penser à un livre que j'aurais dû citer, que je n'avais pas lu au moment où de mon travail, sinon je me serais appuyé dessus. C'est un livre très intéressant d'un Allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, un livre qui s'appelle Accélération. Parce que là, je vais parler de la taille essentiellement dans des dimensions spatiales ou de nombre, mais il y a aussi une question de taille temporelle, justement dans la vitesse. Et ce que fait Hartmut Rosa dans son livre Accélération, c'est qu'il décrit tout le processus de modernisation depuis le XVIIIe siècle comme également un processus d'accélération. Et il montre très bien, et justement, où on arrive aujourd'hui à... En fait, les hommes ont cherché à accélérer les processus pour gagner du temps. Et en fait, Hartmut Rosa montre très bien le cercle vicieux qui s'instaure à un moment donné, c'est-à-dire qu'en cherchant à toujours accélérer les processus pour libérer du temps, au bout d'un moment, finalement, on devient soi-même astreint à suivre la vitesse sans cesse croissante de ces processus, et où on est de plus en plus pressuré et on n'a plus le temps de rien. Un exemple, vraiment entre mille, mais si vous prenez le courrier électronique, si vous voulez écrire une lettre, ça vous prend un certain temps pour écrire cette lettre, après vous devez la poster, il y a le temps qu'elle arrive à son destinataire, après qu'il réponde, Donc on se dit avec le courrier électronique, c'est bien parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc en fait, on va gagner beaucoup de temps. En fait, il se trouve que vous écrivez votre courrier électronique, ça va très vite, vous appuyez sur une touche, ça y est, il est parti, il est arrivé. Bon. Alors ça veut dire que la personne qui le reçoit, elle le reçoit tout de suite. Donc elle va répondre tout de suite. Et donc en fait, si vous voulez, vous avez gagné du temps pour dans la communication de vos messages, mais du coup, en fait, le message en retour, vous le recevez beaucoup plus vite, et donc vous devez répondre, etc. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, c'est comme une partie de ping-pong qui s'accélère de plus en plus, et donc la technique qui était là pour vous faire gagner du temps, au bout d'un moment, en fait, vous passez votre temps à répondre à des courriers électroniques. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est devenu tellement facile d'envoyer du courrier que, en fait, cette chose qui devait vous faciliter la vie,
en fait, devient quelque chose qui vous mange votre vie, parce que comme c'est tellement facile que tout le monde envoie du courrier. Alors, et en plus, un courrier électronique, en plus, vous pouvez l'envoyer à 100 personnes à la fois. Enfin, c'est absolument proliférant. Et en fait, Illich, justement, avait pris aussi bien avant le cas de la voiture. Si vous voulez, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps dans les transports à se transporter qu'au XIXe siècle, alors que les moyens de transport sont devenus beaucoup plus rapides. Mais à partir du moment où les moyens de transport sont devenus beaucoup plus rapides, en fait, on va demander aux gens des déplacements qu'on ne leur demandait pas auparavant. Et donc, du coup, en fait, et c'est ça le paradoxe, c'est que plus les moyens de transport deviennent rapides, plus on passe de temps dans les moyens de transport. Ah, c'est...
Vous avez une petite image, d'ailleurs, dans le livre, là, qui est assez extraordinaire sur cette question des paradoxes. Excusez-moi, je vous interromps. Mais c'est la salle de fitness. Alors donc on va dans la salle de fitness pour se dépenser, pour entretenir son corps. Et en fait, cette image montre que pour accéder à la salle de fitness, on prend un escalator. Justement, vous voyez, c'est
ouais,
la technique.
Alors ça, c'est... Non, mais là,
c'est quand même assez paradoxal.
Oui, c'est un autre. Oui, mais
c'est un autre problème. C'est un paradoxe, mais c'est quand même ce paradoxe. C'est-à-dire qu'on veut gagner en allant à ceux de fitness, entretenir son corps et ainsi de suite, mais en fait, d'un autre côté...
Oui, mais ça, c'est un autre paradoxe, voyez, qui vient de la division extrême du travail. Parce que ça, c'est les économistes, dès le XVIIIe siècle, s'étaient rendus compte de ça. En particulier, le grand Adam Smith a glosé là-dessus. Son exemple, c'était celui de la fabrique d'épingles. Il prend cet exemple et il montre que dans une fabrique d'épingles, en fait, l'usine va produire beaucoup plus d'épingles en une journée si, au lieu de prendre des ouvriers qui chacun fabrique des épingles, on va diviser la fabrication de l'épingle en une vingtaine de tâches extrêmement spécialisées et chaque ouvrier, en fait, ne fait que toujours le même mouvement. Si vous voulez, c'est de la taylorisation avant Taylor, quoi. En segmentant au maximum la chaîne de production, et en spécialisant chacun dans une tâche très particulière, eh bien, globalement, on va augmenter la productivité. Et là, en fait, ce que vous décrivez, c'est le résultat de cela. C'est-à-dire qu'en fait, on spécialise de plus en plus les tâches. Mais en fait, du coup, ces tâches très spécialisées, elles laissent nécessairement en jachère énormément de nos facultés naturelles. Et en particulier... se sont développées énormément avec la modernisation, des tâches de bureau, des tâches statiques, où on passe sa journée derrière un écran, alors que l'être humain a deux bras, deux jambes, il est fait pour marcher, enfin il a besoin, pour aller à peu près correctement, la plupart d'entre nous ont besoin d'avoir un minimum d'activité physique. Mais alors en fait, avant, si vous étiez paysan, vous n'alliez pas faire du sport le soir, quoi. Quand vous aviez labouré votre champ pendant la journée, après vous rentriez chez vous. Quand vous avez passé la journée derrière un écran d'ordinateur, en fait, du coup, vous allez compenser en allant faire du sport le soir sur un tapis roulant. Et alors, en fait, l'idéologie de la compartimentation est tellement poussée qu'effectivement, des gens vont aller prendre un escalator qui leur épargne des efforts,
alors qu'il y a l'escalier
pour aller faire du sport sur un tapis roulant, si vous voulez, parce que tout est tellement intégré que en fait, à chaque tranche horaire, si vous voulez, vous attribuez une tâche particulière et donc vous satisfaisez vos différents besoins par tranche, en laissant toujours évidemment insatisfait un désir profond qui est d'avoir une tâche, enfin d'avoir un emploi de soi-même plus global, quoi.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Merci.
Deux dernières questions.
Merci.
Là-bas, au fond à droite. Ah non, je n'avais pas vu, pardon. Bon, alors trois et après on s'arrête.
Merci. Merci beaucoup pour cette soirée. Je suis vraiment enchantée de tout ça. Et je voudrais vous poser une question très directe. Que pensez-vous de la religion dans tout ça ? Sans pilule, poussée à la procréation, en sachant très bien que les pays sous-développés allaient à la catastrophe. Depuis des années, on n'a pas besoin d'être très scientifique pour savoir ce qui allait se passer. Voilà, merci.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me redire exactement...
Oui, voilà. Ce que je voulais savoir, c'est que la religion a poussé à avoir beaucoup d'infâmes. Pas de pilules, pas d'avortement, etc. Voilà, donc...
Alors, bah, écoutez, comme je l'ai dit, l'auteur sur lequel je me suis beaucoup appuyé dans ce livre, c'est Ivan Illich. Et Ivan Illich, qui était prêtre catholique, bon, qui était quelqu'un d'extrêmement, intellectuellement extrêmement brillant, il était d'origine croate autrichienne. Après avoir été ordonné prêtre à Rome, il est parti aux États-Unis, il voulait aller à Princeton faire une thèse sur les manuscrits d'Albert le Grand qui sont conservés à Princeton. Albert le Grand, c'était le maître de Saint Thomas d'Aquin. Et puis Ivan Illich, en arrivant aux États-Unis, il est arrivé par New York, il est allé se promener sur Manhattan, et c'était dans les années, au début des années 50, c'était le grand moment de l'immigration portoricaine aux États-Unis, en particulier à New York, et il a été très très impressionné par la vitalité de la vie dans ce quartier portoricain. Il est allé voir l'archevêque cardinal de New York et il a dit: je veux devenir curé de paroisse chez ces portoricains. Et voilà, l'archevêque de New York, il s'est bien entendu avec lui, a accédé à cette demande, il est devenu prêtre dans cette paroisse. Ça s'est très très bien passé. Et ensuite, Illich a été nommé recteur d'une université pontificale à Porto Rico. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que, à ce moment-là, quelques années après, à Porto Rico, il y a eu une élection et il y a un gouverneur qui a proposé dans son programme électoral de mettre les préservatifs en vente libre en pharmacie. Et les évêques de Porto Rico ont interdit aux catholiques de voter pour ce gouverneur en les menaçant d'excommunication s'ils votaient pour ce gouverneur. Et là, Illich s'est révolté contre cette prise de position et il a été obligé de quitter Porto Rico. Et à partir de là, il a eu des ennuis à n'en plus finir avec la hiérarchie catholique, ce qui l'a amené, il a quitté Porto Rico, il s'est installé au Mexique, et puis il a renoncé à exercer toute charge ecclésiastique. Alors contrairement à ce que disent certains, ça n'est pas un prêtre défroqué, il n'a jamais révoqué ses vœux, simplement il n'a plus exercé aucune charge à l'intérieur de l'Église, et ça s'est joué autour de cette question du préservatif. En fait, ce qu'a vu Illich, c'est que toutes les sociétés traditionnelles sont conscientes que une vie communautaire saine suppose une certaine régulation des naissances. Simplement parce que s'il n'y a aucune régulation des naissances, c'est ce qu'a bien vu Malthus, et bien on a de l'exponentiel, et l'exponentiel, ça fait tout exploser. Bon. Toutes les sociétés traditionnelles avaient des manières de réguler les naissances, et ce qu'a produit la modernisation, en particulier il l'a vu en Amérique latine, mais ça s'était fait en Europe au XIXe siècle, et puis ça s'est fait sur les autres continents aussi au XXe, c'est que la modernisation, en faisant exploser les structures traditionnelles, ont également fait disparaître toutes ces manières traditionnelles de réguler les naissances, et ça a produit ces phénomènes d'explosion démographique que Illich voyait non pas comme des manifestations de vitalité des sociétés, mais au contraire comme des phénomènes cancéreux. Hein, c'est comme un cancer, c'est pas de la vitalité, c'est au contraire ce qui va détruire à un moment donné va détruire l'organisme. Donc, alors en fait, ce qui est intéressant chez Illich, hein, c'est la position sur les moyens de contraception, c'est que en fait lui, il disait que on avait tort de mettre tous les moyens contraceptifs dans le même sac, c'est-à-dire soit pas de contraception, soit de la contraception, enfin de faire passer la limite entre l'usage ou non de techniques contraceptives, lui faisait plutôt passer la limite entre des pratiques qui reconnaissaient la dimension procréatrice de l'acte sexuel et celles qui la faisaient oublier, voire la nier. Et par exemple, c'est pour ça que lui, il n'était pas opposé au préservatif et qu'en revanche, il était opposé à la pilule contraceptive, parce qu'il disait que d'une certaine manière, le préservatif en caoutchouc, hein, c'est une manière de manifester que, précisément, l'acte sexuel, il est lié à la procréation. Et donc, en fait, il faut mettre un obstacle physique, sinon, il peut y avoir procréation. Alors que la pilule contraceptive, en fait, c'est quelque chose qui est totalement opaque, on avale ça, et puis il n'y aura pas de procréation, mais vous voyez, on voit pas ce qui se passe. Voilà, ça c'était la position d'Illich sur cette question.
Deux autres questions pour terminer.
Ma question concernait ce que vous avez dit au départ sur ce qui est grand, et notamment l'État, qui ne marche pas. Et je pensais à l'Empire romain, qui a marché quand même pendant plusieurs siècles. Alors, je me suis dit, et j'aimerais avoir votre confirmation, que c'était peut-être parce que finalement, l'Empire romain était dirigé par une élite et qui avait une majorité d'esclaves, et c'est ce qui faisait que ça marche. Et ce qui ferait que ça ne marche plus aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'esclaves. Et donc, la démocratie serait en quelque sorte un empêchement de faire fonctionner les grandes affaires.
Oui, non, je ne vous suivrai pas sur ce terrain. En fait, on ne peut pas vraiment, je pense, comparer l'Empire romain à la situation actuelle, justement à cause de la différence de développement technique. C'est-à-dire que l'Empire romain était unifié. Si on dessine une carte, on va faire l'Empire romain, c'est ce gros bloc. Mais en fait, les communications étaient à l'époque quand même extrêmement lentes. Et donc, en fait, si vous voulez, si vous étiez dans une province ibérique ou en Égypte ou en Grèce, etc., vous savez, Rome, c'était à des semaines de voyage. Et donc, en réalité, même s'il y avait cette unité politique à un certain niveau, en même temps, la vie concrète des personnes restait extrêmement locale. Et donc, en fait, on peut pas comparer à ce qui se passe aujourd'hui où, par le développement de moyens de transport extrêmement rapides et par les moyens de communication, en fait, il y a une interaction très rapide de ce qui se passe dans un endroit du monde sur un autre endroit du monde. Donc là, je pense que, si vous voulez, la plus grande différence entre l'Empire romain et aujourd'hui, elle est plus sur ce terrain technique que sur le terrain des esclaves de l'époque et pas d'esclaves aujourd'hui. Surtout qu'en plus, c'est compliqué parce que les esclaves aussi dans l'Empire romain, il y avait des statuts extrêmement différents. On unifie ça aussi sous le terme d'esclave, mais il y avait des statuts extrêmement différents. Les esclaves, c'était des gens qui n'avaient pas de droit politique, mais par ailleurs, vous aviez des esclaves qu'on mettait dans des mines et qui avaient des espérances de vie de 6 mois. Et puis, par ailleurs, vous aviez des esclaves qui étaient les pédagogues, qui étaient ceux qui élevaient les enfants de la maison et qui étaient des êtres instruits. Enfin, voilà, c'est... Bon, donc... Je crois pas que... Enfin, c'est très difficile, en tout cas, il me semble, de comparer les deux situations. En fait, l'Empire romain, c'était quand même beaucoup une unification de façade. Alors qu'il me semble qu'aujourd'hui, le monde, par la technique, est beaucoup plus, véritablement extrêmement interconnecté. Par exemple, ce qui s'est passé avec la crise en 2008, ce qu'on appelait des subprimes, c'est-à-dire qu'en fait, un écroulement du marché immobilier aux États-Unis engendre une crise mondiale. Bon, ça, on voit bien que là, ça communique.
Alors moi, je voudrais vous poser une dernière question. Donc, vous évoquez cette démesure par rapport à l'homme en général. Quand on voit ce qu'est la vie, qui est partie d'une simple cellule, qui s'est divisée, comme vous l'avez dit, qui s'est complexifiée avec le temps, aujourd'hui nous sommes, je pense, l'exemple d'un organisme très développé, avec des cellules qui sont effectivement spécialisées, il suffit de penser au cerveau, il suffit de penser aux cellules musculaires, ce qui n'empêche pas le corps de s'adapter, il suffit de voir les gens qui subissent parfois des handicaps, et on découvre aujourd'hui qu'au niveau du cerveau, certaines cellules prennent le relais. Est-ce que c'est tout simplement pas le but de la vie, le développement, et à un certain moment, pousse les hommes, je dirais, à envisager les choses autrement et à se dépasser, tout simplement?
Bah écoutez, moi je fais la différence entre, si vous voulez, une multiplication qui est au service de la vie et à un moment donné une multiplication qui devient cancéreuse. Et donc en fait on ne peut pas simplement, si vous voulez, dire bah, à partir du moment où ça, la vie est croissance, donc ça croît, donc c'est de la vie. Quand vous avez une tumeur qui croît, qui va vous tuer, voilà, c'est pas au service de la vie. Et donc en fait l'argument qui est de dire la vie est croissance, donc tant que ça croît c'est bien, c'est la vie, non, je ne crois pas, je pense qu'il y a des croissances qui sont mortifères. Et pour, ça me revient en tête, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question religieuse, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée et qui me semble quand même importante, c'est que, comme j'ai dit, je me suis beaucoup appuyé sur Ivan Illich et puis j'ai cité aussi Jacques Ellul. En fait, c'était l'un catholique, l'autre protestant, c'était deux hommes de foi. Et je pense que c'est quand même important aussi dans la manière qu'ils avaient d'envisager le monde. Bon, manière, évidemment, c'était quelque chose qui était fondamental dans leur vie, mais même ensuite dans les diverses idées qu'ils ont pu développer, ça a joué aussi un rôle, c'est-à-dire que aussi bien chez l'un que chez l'autre, de manière sous-jacente, je pense qu'il y a chez eux aussi une forme de confiance dans le monde tel qu'il nous est donné. C'est-à-dire, en fait, l'idée que le monde a été créé par un Dieu bon. Il nous a mis à l'intérieur de ce monde et il nous a donné les moyens de vivre bien à l'intérieur de ce monde. Et que pour un être humain, vivre bien à l'intérieur de ce monde... ça suppose de l'usage des facultés qui nous ont été données en partage pour nous confronter comme il faut au monde dans lequel nous vivons. Mais cette confiance dans la création telle qu'elle nous est donnée nous amène aussi à penser qu'il ne faut pas trop bouleverser cette création de fond en comble, parce que, en fait, si cette création est bonne, justement, la technique, par exemple, dans leur conception de la technique, c'est que la technique, elle aide la nature à accoucher de ses possibilités, mais elle n'est pas là pour refaire la création. C'est-à-dire que si l'homme se met à vouloir refaire véritablement la création, c'est-à-dire remplacer le monde tel qu'il nous est donné par un monde de sa création, ça va devenir catastrophique. Et là, je pense que, de manière, c'est pas un hasard si Illich comme Ellul étaient deux hommes de foi, c'est-à-dire que, de manière fondamentale, il y a chez eux la pensée que, si vous voulez, c'est la parabole des talents, certes, l'être humain, si on lui a donné un certain nombre de talents, c'est pour qu'il en fasse usage, mais le bon usage de ses talents, c'est de vivre le mieux possible à l'intérieur du monde tel qu'il nous est donné et non pas ravager ce monde tel qu'il nous est donné en tant que mauvais pour en faire un de notre création qui serait meilleur. Et donc, en fait, ce sens de la mesure, qui a été prononcé, ce sens de la mesure qui est très présent chez l'un comme chez l'autre, est lié aussi à cela. C'est-à-dire que l'action de l'homme est bonne en tant qu'elle s'inscrit dans l'ordre de la création, et elle devient mauvaise lorsqu'elle déclare elle-même cette création mauvaise au point de vouloir la refaire.
Très bien, voici une belle conclusion sur la mesure de toute chose. Je vous rappelle que vous retrouverez tous ces développements et bien plus encore dans cet ouvrage, Une question de taille, d'Olivier Rey. Je vous rappelle aussi, avant de nous quitter, que notre prochaine conférence sera dans le cycle Protestantisme en voyage. Ce sera Patrick Cabanel qui viendra nous parler du voyage des idées. Et il évoquera notamment les protestants français comme passeurs d'idées, de Pierre Bayle à Ferdinand Buisson, passeurs d'idées dans le domaine scolaire comme dans le domaine de la laïcité ou de la République. Voilà, donc ce sera le 30 octobre et ce sera ici aussi au Capitole, Patrick Cabanel, le voyage des idées. Merci à tous de votre attention et nous vous souhaitons un bon retour.
Merci à vous.